Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les journalopes.
Salut Guillaume.
Bien ou bien, on fait quoi pendant les vacances là? On va s'ennuyer.
Ah, alors Guillaume, justement, voilà. Tu sais qu'on a une très grande confiance en toi.
D'ailleurs, on n'est pas loin de penser que t'es le meilleur chroniqueur de l'émission.
Ah moi tu sais, j'aime pas trop la compétition, moi je suis de gauche.
Oui, donc, oui, alors c'est justement pour ça que tu es dans les fleurilles.
Voilà, mais allez, ça me fait plaisir d'être votre chouchou.
Bon, par la force des choses, t'es là tous les jours quand même.
Oui, tous les jours, c'est vrai, je pars au contact de la population.
Ouais, surtout de la start-up nation.
Et tous les jours, je pars à la rencontre des Français.
Ouais, surtout en région parisienne.
Je l'ai là, la France, je l'ai chevillée au corps.
Mais calme-toi, mais cette fois, on t'envoie pas sur le terrain.
Ah oui, et pourquoi?
Non.
Pourquoi c'est un complot, c'est ça? C'est la censure?
Non, Guillaume,
les Français ont le droit de savoir pourquoi, hein, avec leur argent.
Guillaume, on va passer ton reportage à Évry.
Oui, je m'en rappelle, j'étais parti sur les traces de la dignité de Manuel Valls.
Voilà.
J'ai rien trouvé d'ailleurs, parce qu'il a trahi le socialisme, il faut le rappeler.
Et on va réentendre l'émission avec un Français comme tu les aimes, Cédric Héroux.
Ah lui, oui. Bon, il paraît qu'il a aidé quelques réfugiés.
Tu rigoles ou quoi? Il a recueilli des centaines de migrants.
Oui, mais bon, je suis quand même plus de gauche que lui, il me semble.
Enfin, Guillaume, non.
Je suis allé à Nuit Debout, moi. Hein. Mm-hmm. Ça m'étonnerait que le zozo de la Roya, là, il parvienne à réciter des discours de Jaurès en buvant de la 8-6, ok?
Je comprends pas ton raisonnement.
Non,
ça, la pensée révolutionnaire, tu peux pas piger, forcément.
Non,
ça,
mais Guillaume, en fait, tu veux être l'homme le plus à gauche du monde?
Oui, c'est ça. Oui.
Attends, parce que moi, je croyais que la compétition, c'était pas de gauche.
Oui. C'est pas, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est
Non, je vois que monsieur est un petit peu empêtré dans ses contradictions,
hein. Oui, mais ça aussi, c'est la gauche.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up de Noël, cet espace où la Bible a tout inventé, puisque l'étable est le premier open space de l'histoire. Et pour remettre le petit Jésus au milieu de la crèche, nous avons rappelé deux invités. D'abord, Daniel Guichard.
C'est mon cadeau de Noël, je sais.
C'était votre idée, c'était une excellente idée. Il a fait son grand retour avec une série d'Olympia. Et il a réagi à l'idée d'une présence policière à l'école. Et puis en grand amoureux de la Chine, figurez-vous, il nous a donné son point de vue sur la notation du citoyen chinois qui tente de conserver son crédit social pour ne pas perdre ses droits. Un qui risque de voir perdre ses droits alors qu'il mériterait un gros crédit social, c'est Cédric Héroux, l'agriculteur de la vallée de la Roya qui héberge des migrants. On l'a reçu à l'époque où l'Aquarius pouvait encore sauver des vies en Méditerranée. Maintenant privé de son pavillon depuis, et il n'est jamais reparti. Nous avons demandé aussi à Cédric Héroux comment engager la conversation avec un inconnu tout en évitant, vous savez, le fameux « Sinon, vous faites quoi dans la vie ?» Oh là là, mon Dieu, l'angoisse. Vous vous rendez bien compte que tout ça s'est terminé avec un sketch sur Éric Ciotti, bien sûr. Mais pas que, Alex.
Qu'est-ce qu'on a au programme? On a Clara Dupont-Mono, qui m'a fait très plaisir, car elle a fait une chronique musicale. Elle a relié Daniel Guichard au troubadour, et ça, elle sait faire. Guillaume Meurice est parti à Évry, sur les traces de Manuel Valls, et vous dire s'il manque beaucoup là-bas.
Moi, il me manque pas du tout, parce que je suis marqué avec lui en ce moment.
Ne perdez pas votre accent, j'ai du Pablo Mira pour vous.
Ah, voilà.
Pourquoi la France a eu raison de ne pas accueillir l'Aquarius était la thématique de sa chronique face à Cédric Héroux. Et on terminera en chanson « Ça fait mourir les oiseaux », Fred Fromet featuring la Compagnie Créole.
Quel magnifique programme pour une journée de Noël.
Allons-y.
Allez.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Daniel Guichard. Je vous laisse avec Alex Vizorek.
La tournée s'appelle Jusque-là, ça va.
Oui.
Donc c'est une info que vous vouliez nous donner.
Oui, c'est parce que, en fait, c'est une phrase que je pratique très souvent depuis que je fais chanteur, et ça va faire 50 piges que je fais chanteur.
C'est ça.
C'est qu'il m'est arrivé souvent, et il m'arrive encore souvent, de me tromper dans les paroles sur scène parce que je pense à autre chose. Par exemple, les conneries que j'ai entendues tout à l'heure m'auraient perturbé au niveau des chansons. J'aurais pensé à ça, je me serais emmêlé des crayons, donc je me serais trompé. J'aurais expliqué que je me suis trompé et que je recommence. Et j'explique pourquoi. Et ça arrive à peu près à tous les chanteurs. Et dans ces cas-là, il y a même des fans qui viennent en disant peut-être que ce soir il va se tromper sur celle-là. Et quand je me suis pas gouré du tout,
je le dis,
jusque là ça va. Alors c'est rare que j'arrive jusqu'au bout du tour de chant sans me planter, mais ça va. Ouais.
Donc tant que les gens viennent pour vous voir vous planter, bon bah ça c'est bien, comme ça on a les dates. Hein, si vous voulez venir voir Daniel Guichard se planter. Non, le jusque là ça va, je l'avais compris un peu comme je suis allé voir récemment Michel Sardou, c'était ses adieux.
Oui.
Je suis allé voir Hervé Villard, c'était ses adieux.
Oui.
Et vous en fait vous nous dites, moi j'ai pas du tout envie de faire mes adieux.
Non, c'est pas, je m'en fous parce qu'un jour je m'arrêterai. après, je me suis arrêté déjà depuis que je suis chanteur. je me suis arrêté plusieurs fois parce que c'était pas le fait de faire chanteur qui était embêtant, c'était tout ce qu'il y avait autour, c'était chiant, il y avait des problèmes entre les gens dans les équipes, les
la promo dans les médias et tout ça.
Ça va, vous êtes plutôt sympathique.
Attendez, vous êtes au début là.
Non, mais vous m'avez pas vu quand je suis en bonne humeur. Pour l'instant, je suis souriant.
Non, mais c'est. Faut pas l'emmerder, je crois.
Réellement, il y a des choses très désagréables autour du spectacle. Donc, je me suis arrêté 2-3 fois, oui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis j'ai repris.
Les deux là, ils disent que c'est parce qu'ils arrivent plus à vocalement toucher leurs chansons.
Non, mais ça, c'est possible.
C'est possible. Et vous, d'abord, peut-être, vous avez une voix plus, du coup, plus basse, et que peut-être.
Il y a un phénomène qui s'est passé dans ma vie au milieu de mon existence, c'est que je me suis arrêté de cloper, j'ai arrêté de fumer, de picoler. Donc, à partir de ce moment-là, les cordes vocales, elles m'ont dit merci.
Et donc, du coup, vous êtes nickel.
Presque.
En 73, déjà, on vous dit que vous êtes démodé.
Oui, j'étais déjà ringard. J'étais déjà ringard à l'époque. J'étais has-been, ringard. Et puis, comme j'ai décidé un jour de faire que du français dans ma radio pirate, j'étais traité de facho et de réac, mais je m'en tape alors un peu.
C'est vrai, vous aviez une radio dans votre jardin, radio pirate.
Non, radio bocal.
Qui s'appelle radio bocal.
Elle était pirate complète et j'ai jamais été autorisé. Ouais. J'ai eu tous les surnoms, mais je m'en tape. D'abord, une partie de ceux qui m'ont critiqué, qui m'ont insulté, sont morts. Ça, c'est l'avantage des vieux chanteurs. Et ensuite, c'est un peu comme tous les patrons de toutes les radios, journaux, télévisions. Il y a quelques personnes qui étaient sympathiques, d'autres moins, mais ils sont plus là, donc c'est pas grave.
Daniel Guichard, voilà que Clara Dupont-Monod voit en vous un poète. Elle est en amourée.
Oui, mais elle a l'œil qui s'allume.
Elle a l'œil humide, même.
Quand je vois Daniel Guichard, c'est compliqué d'avoir l'œil sec, en effet. D'abord parce que vous êtes notre actualité, Daniel Guichard. Ici, nous traitons de l'actualité, comme vous l'avez compris. Oui. Eh bien, l'actualité principale, c'est vous, hein, et vos 6 belles chansons. Alors, on ne vous l'a, à mon avis, sans doute jamais dit. Donc, je suis assez ému de vous l'annoncer, mais il se trouve que vos 6 belles chansons font de vous l'héritier de toute une sublime tradition occitane, qui est celle des troubadours. Voilà, je vous l'annonce, vous êtes le troubadour du 21e siècle. De toute façon, c'est pas très compliqué, il y en a un par siècle. Il y avait Jean-Jacques Goldman au 20e. Vous êtes celui du 21e et je vais vous le prouver. D'abord parce qu'un troubadour, Daniel, je ne vous l'apprends pas, c'est itinérant. Oui. Or, avec votre tournée, qu'est-ce que vous êtes ? Itinérant. Oui. Voilà. Et en plus, vous passerez par Mérignac, Biarritz, Toulouse en mars. Et donc, c'est la terre de Languedoc, berceau des troubadours. Ça n'est pas un hasard. Et puis ensuite, vous avez la coupe de cheveux des troubadours.
Si.
Regardez bien dans une glace. Cheveux follets, qui ne seront pas recouverts d'un aume, mais qui préféreront audoyer au son des accords d'une flûte. Mais surtout, Daniel Guichard, vous et les troubadours, il se trouve que vous chantez les mêmes choses, et notamment l'amour inaccessible. Et je pense à votre chanson « Je t'aime, tu vois », en 1976, qui n'est pas la plus connue, pour moi qui est une des plus belles, et qui est la quintessence de l'amour courtois, à savoir « homme salivant d'amour plus dame froide égale zéro rapprochement. »
Tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi.
Donc, il la serre pas dans ses bras. Donc, il résiste. Eh bien, cette attitude est le fondement de l'amour courtois. On appelle ça en occitan médiéval la mesura, ce qui signifie la mesure, la maîtrise de soi, la dignité. Alors, je sais que ça vous parle pas, Alex Vizorek, que ce genre de concept vous échappe, mais c'est la retenue de l'amant face à sa belle. En fait, ça porte un autre nom, ça s'appelle une épreuve. Et il se trouve que 9 siècles avant vous, un troubadour chantait comme vous, je cite, « Ma belle dame me sonde et éprouve la façon dont je l'aime ». Ce troubadour, il s'appelait Guillaume d'Aquitaine, c'était le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, né en 1071, considéré comme notre premier poète national. C'est votre ancêtre artistique, Daniel Guichard, et c'est lui qui a inventé l'amour courtois. Pour la petite information, on a conservé de lui 9 poèmes que je vous recommande, magnifiques, qui sont rassemblés sous le titre « Le néant et la joie ». Mais personne mieux que lui n'a chanté aussi bien cette l'idée d'épreuve liée à l'amour courtois, et la plus redoutable épreuve étant celle de dormir à côté de sa dame et de se tenir à carreau. Alors, je sais que ça vous échappe, Alex Vizorek, je sais.
Je comprends rien à votre chronique, moi.
C'est normal, c'est normal.
Non, mais il faudra lui expliquer tout, parce qu'il y a, des données qu'il n'a pas.
C'est non, ça. Pas du tout. Alors, il se trouve
qu'il y avait beaucoup de MST à l'époque, on le rappelle aussi, ça peut expliquer l'amour courtois. Mais bon, je vais pas désenchanter le monde non plus.
N'écoutez pas, Daniel, n'écoutez pas. Il se trouve que le meilleur copain de Guillaume d'Aquitaine était était troubadour lui aussi. Il allait de ville en ville et il s'appelait Cercamon, ce qui signifie « cherche monde », ce qui est quand même très très beau. Et d'ailleurs, c'est lui que vous chantez avec le gitan qui va de ville en ville. Vous chantez Cercamon. Mmh. Eh bien, ce Cercamon chanta lui aussi cette épreuve du lit, où on est à côté et on se tient à carreau. Je cite, il a écrit « Pourrais-je voir l'heure qui me permettra d'être couché près d'elle ? Non, car elle ne se tourne pas vers moi. » « Bien que je rêve de ton corps, je n'ose pas te réveiller. » Poursuivez-vous dans la chanson « Je t'aime, tu vois » comme la prolongation de la voix de Cercamon. Et puis, autre caractéristique de l'amour courtois, c'est que l'amour courtois, il déteste le mariage. Et lorsque vous, Daniel Guichard, vous chantez
« Il est encore temps pour toi de venir avec nous, marie-toi une autre fois et bien voir un coup. »
Vous ressemblez à ce moment-là à Guillaume d'Aquitaine, qui certes avait inventé l'amour courtois, c'est-à-dire platonique et pour une seule dame, mais qui, par ailleurs, forniquait de tous les côtés. Il était fidèle comme Guillaume Meurice et tolérant, donc c'est vous dire le voyage. Et d'ailleurs, l'Église était furieuse, elle l'a puni plusieurs fois, mais, je cite, « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui en ont parlé. Je suis bien plus heureux de vivre avec mes péchés. » Qui a chanté ça, Guillaume le Troubadour ou vous ? Eh bien, c'est vous, dans « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux » en 1976. Et puis enfin, Daniel Guichard, votre lien le plus évident avec les Troubadours s'appelle...
La tendresse.
Je cite, « La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir. » Ça, c'est Lancelot et Guenièvre. « Se séparer sans se maudire. » Ça, c'est Tristan et Iseult. « Avec le cœur au bord des yeux. » Eh bien, ça, c'est pour nous, devant vous.
La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse.
Merci Clara Dupont-Monod.
Ouais, c'est beau, hein. Je suis alors tout bouleversé par ce qu'elle a dit. Elle a dit des choses très touchantes. L'interprétation de « Je n'ose pas sur Je t'aime, tu vois », c'est aussi une forme de respect et de pudeur.
Comme l'amour courtois.
Oui, mais l'amour courtois, il faut aussi définir, c'est que l'amour courtois, très souvent, les troubadours, ils faisaient du gringue en poésie. À la femme du Seigneur, et ils allaient culbuter tout ce qui était à côté.
Mais peut-être que vous aussi.
Je ne peux pas vous raconter.
Merci Clara Dupont. Ne gâchez pas tout, c'était magnifique.
Mais non, le fils est là parce que maman a dit « Surveille ton père ».
Bien sûr.
Daniel Guichard avec nous. Vous parlez de Cercamon, du Gitan. Eh bien, allons-y, tiens, pour une version live du Gitan, si vous êtes d'accord.
Ouais, l'idée est bonne, oui.
Il y a la jeune génération, par exemple, dans notre bureau, notre jeune stagiaire Paul Plumet, ne vous connaissait pas. Eh bien, maintenant, comme beaucoup de jeunes auditeurs qui nous écoutent, ils vous connaissent. Et on a choisi ce magnifique live du Gitan. Ah, ça va nous chauffer l'ambiance.
Il a un rire voyou dans le fond des yeux, ses amis. Il a le cœur au bord des coudes.
Le gitan,
un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout.
Le gitan
que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sort, prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours où il va. Il a des milliers de cousins.
Le gitan,
il a couru les chemins, Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen.
Le gitan
que tu ne connais pas. Souvent je deviens
gitan,
mon ciel c'est le sien.
Gitan,
je suis comme lui.
Gitan,
j'ai plus de pays.
Gitan,
j'ai plus de maison.
Gitan,
non, je n'ai plus de nom.
Gitan,
c'est toi qui as raison.
Gitan,
il y a plein d'horizons. Toujours l'air heureux, les chats. chagrin, lui, n'en veut pas. Il les jette au milieu d'un feu.
Le gitan,
l'amitié n'est pas un jeu. Quand il donne, il ne reprend pas. Il s'est coupé son cœur en deux.
Le gitan
que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts. Prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Souvent je deviens
gitan,
mon ciel c'est le sien.
Gitan,
je suis comme lui,
gitan,
j'ai plus de pays,
gitan,
j'ai plus de maison,
gitan,
je n'ai plus de nom,
gitan,
c'est toi qui as raison,
gitan,
y a plein de raisons.
C'est Daniel Guichard et il est avec nous.
Ah, il est en train de faire un AVC. Daniel.
Daniel Guichard qui est en pleine forme et qui va entamer une magnifique tournée dans toute la France. Allez, on va parler avec vous de la présence d'un policier à l'école. Cela se confirme car le président reste ouvert à cette idée, a-t-il dit, pour décourager les actes de violence. Emmanuel Macron précise toutefois que la communauté pédagogique restera maître de cette décision. Et elle fait quoi, la communauté pédagogique? Elle suit un entraînement de l'armée. Il y a 40 proviseurs qui ont choisi les méthodes de suivre des méthodes de combat.
Mais je pense que dans, ouais, pour ce qui est l'éducation physique, on pourrait déjà commencer par le lancer de grenades. C'est vrai que les petits, c'est pas très lourd, ils pourraient s'entraîner à la grenade. Pas offensive, défensive, et les adultes à l'offensive.
C'est vrai.
C'est un homme de solution.
Alors essayons, vous voulez qu'on allons tâter l'ambiance dans une cour de récré protégée par un flic. Testons.
Bonsoir tout le monde, police.
Mais c'est mon petit Joe à moi, mon petit préféré.
Tu transportes de la drogue?
Tu vas quand même pas me dire que tu joues de la contrebasse, non?
Bah voyons, monsieur l'inspecteur, je plaisantais.
Ah alors, si c'est une plaisanterie, ça c'est autre chose, mais faut prévenir, hein. On comprend les plaisanteries, nous autres, hein. Ça nous arrive même d'en faire avec les collègues, on n'est pas contre, hein. On sait rire. Mais on aime bien que ça soit clair. Pas de quiproquo. Compris?
Merci.
Merci qui?
Merci monsieur l'inspecteur.
Yves Barsac qui coince Michel Serrault dans Des pissenlits par la racine, le film de Georges Lautner qui date de 64. Donc je sens que ça vous amuse ce sujet. Daniel Guichard, ouais, donc d'une part le flic à l'école, ouais, et aussi donc c'est la une du Parisien aujourd'hui en France avec ses proviseurs qui suivent, on les sent en treillis, qui suivent un entraînement de l'armée, ils rampent, ils font des pompes, ils sont à fond.
Ouais, c'est super.
J'étais sûr que vous allez adorer.
Ah non, mais c'est super, je crois que là on est en train de nous enfumer d'une façon merveilleuse, c'est super, moi j'aime bien. Ils nous prennent vraiment pour des cons.
Oui, parce que là, c'est décomplexé.
C'est même plus décomplexé. Ouais. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on n'enverrait pas Babar non plus à l'école. Ça ferait peut-être. Ça calmerait, ouais, les enfants.
Ouais. Oui.
Les flics à l'école, non. Je crois que c'est dans la rue et dans l'extérieur qu'il faudrait régler le problème, pas à l'école.
Ouais. Mais surtout qu'en Grande-Bretagne, le dispositif existe depuis 2002, mm-hmm, et a montré son inefficacité.
Mais bien sûr. Ça rappelle d'ailleurs tous ces fameux films américains où on voyait des problèmes avec les gangs dans les écoles, avec des mecs baraqués qui arrivaient du Vietnam et qui étaient là pour mettre de l'ordre. En réalité, ça sert pas à grand-chose. C'est à l'extérieur qu'il faut régler les problèmes, qu'ils soient sociologiques, qu'ils soient la loi ou le reste. C'est pas dans les cours, mmh, d'école.
Et à l'intérieur, c'est l'éducation qui doit régler le problème et pas la force de l'ordre.
C'est difficile. C'est, ouais, très difficile parce que, comme on a le fameux hashtag « Fais pas de vagues », on a la preuve qu'en réalité, on ne sait pas qui commande qui. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire. Nous, on ne peut pas faire grand-chose.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui sont à l'école. Les scolarités sont terminées. Moi, il y a longtemps que j'y vais plus. Et je suis triste pour ce qui arrive, quoi. Mmh.
Daniel Guichard. Alors, on va parler de votre passion pour la Chine, parce que le citoyen chinois est noté. Il dispose d'un crédit de points qui s'amenuise ou qui gonfle en fonction de son comportement en rue, parce qu'il y a des caméras de surveillance, ou sur Internet, où critiquer le gouvernement provoque bien sûr une perte de points. La Chine veut ainsi construire une culture de la sincérité. Que se passe-t-il si vous perdez trop de points? Démonstration.
Et à quelle heure est le prochain vol?
Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir.
Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier.
Oh, ça tombe bien, c'est ma note.
J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée.
Oh,
Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi.
Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous.
Mais il ne me manque presque rien.
Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement.
C'est pas la même.
Non, mais madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage. Je viens d'appeler la sécurité.
Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça,
je... Afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vais vous sanctionner par une pénalité d'argent.
Qu'est-ce que c'est ? C'est un extrait de la série Black Mirror sur Netflix, ouais. Qui est d'anticipation et qui a, là, illustre parfaitement ce qui se passe en Chine. Vous avez étudié le chinois un peu, Daniel Guichard, si je ne m'abuse.
Oui, un tout petit peu, oui.
Vous avez voyagé là-bas plusieurs fois.
Je suis allé chanter plusieurs fois à Pékin et j'y suis allé pour la première fois en 79, comme on dit, chez nos voisins. C'était 3 ans après la mort de Mao. L'ambiance était chinoise, particulière. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont tellement peur qu'il y ait le bordel qu'ils préfèrent recadrer tout de suite. Et puis, l'électronique joue pour les grandes villes. Mais je pense que dans le fin fond de la Chine, dans les rizières où il n'y a pas Internet et ni de téléphone portable, les problèmes ne se poseront pas de la même manière.
C'est le citoyen urbain qui est donc ciblé.
Mais on y
Internet
est tous. Hein. On regarde ça parce qu'il faut bien regarder ailleurs. Mais on y est tous quand même. Entre la façon dont on utilise notre ordinateur, Google, le reste, on est cadré. On ne perd pas trop de points, mais il y a tellement d'émissions débiles à la télé où on se fait virer si on perd des points, donc c'est exactement le même jeu, quoi. Oui, sauf que c'est au niveau de la société.
Oui, et là, l'idée, c'est qu'on est noté et que c'est officiellement connu. C'est-à-dire que ça dépasse quand même les cadres du jeu télévisé, quoi.
Oui, mais on joue à ça dans beaucoup d'entreprises. Si on se donne la peine de rentrer dans beaucoup de supermarchés, de grands magasins et ailleurs, on a les meilleurs employés avec les codes qui se font chaque semaine. Et je pense que dans énormément d'endroits, sans s'en apercevoir, ce genre de jeu joue. Les sanctions sont peut-être pas les mêmes, mais je crois que l'Asie joue ouvertement à des jeux que nous on fait en hypocrite.
Mmh. Oui, les hôpitaux, c'est pas exclu, les hôpitaux publics qui soient bientôt notés. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a dit ne pas exclure cette possibilité.
Bien sûr. Non, mais nous on est des hypocrites. On est dans un monde qui a une certaine culture de l'hypocrisie qui est parfaite. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on arrive à vivre les uns avec les autres.
Ouais. Daniel Guichard, qui ne regrette pas d'être venu, non. Et encore moins quand il va savoir qu'on va le faire jouer dans un sketch.
Il est ravi. À la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité.
Oui.
Vous le recevez, le texte, il est là. On s'est dit, c'est quand même pas de bol que Jean-Pierre Pernaut soit pas au Trésor. Parce qu'en ce moment, avec le prix de l'essence, c'était vraiment une thématique pour lui. Comment se serait passé un Trésor de Jean-Pierre aujourd'hui? On y va, Guillaume Meurice prend sa place.
Bonjour à toutes et à tous. L'information principale de ce journal, c'est bien sûr la hausse du prix de l'essence. L'État nous taxe encore et toujours. Et pendant ce temps-là, les Français perdent du pouvoir d'achat. Un reportage signé Catherine Riboul.
Oui, nous sommes dans l'Allier, dans la petite commune de Vide-la-Pompe, où les Français sont directement impactés. Jean-Claude est automobiliste, il est avec nous. Vous êtes excédé, Jean-Claude ?
Ah bah oui, ils nous prennent en otage, ils nous taxent sur l'essence, ils nous taxent sur les cigarettes, et sera quoi ensuite ? Ils vont nous taxer sur notre petit verre de rouge ?
Très beau reportage, et je rappelle que ces taxes permettent de financer les centres d'accueil des migrants. Sport maintenant, hier soir, en Ligue des Champions, le PSG a fait match nul. Nul comme le bilan du gouvernement, un reportage signé Jocelyne Ciboulette.
Oui, nous avons suivi des supporters de Paris venus en voiture à Naples. Nous sommes avec Patrick, je crois.
Ben non, c'est toujours Daniel et je suis excédé.
Oui, non, attendez, parce qu'il faut qu'on fasse comme si vous étiez quelqu'un d'autre.
Bon, d'accord.
Ouais. Alors, pourquoi êtes-vous soulagé, Patrick, après ce match ?
Eh ben oui, parce qu'en Italie, l'essence est moins chère. Je vais pouvoir faire le plein dans toutes ces taxes qui nous bouffent. C'est insupportable. Oui,
merci, Patrick. Merci.
Un très beau reportage. Et je rappelle que ces taxes permettent de financer tous les branleurs de chômeurs. Cinéma à présent, signalons la ressortie du film Voleur de bicyclette, un chef-d'œuvre en noir et blanc d'un temps béni où les immigrés étaient italiens, donc catholiques. Nous retrouvons notre envoyé spécial Églantine Figalou.
Oui, Jean-Pierre, nous sommes à Fenioux, en Charente-Maritime, et nous sommes avec Eric.
Ben non, c'est toujours Daniel.
Ah oui, bon. Vous avez aimé le film ?
Ben bien sûr que oui, parce que moi aussi je rêve de voler des vélos. Parce que l'essence, c'est un scandale.
Ah, ça c'est votre critique, j'imagine.
Ben oui, je les aime pas. Je les aime pas à terre, ils passent jamais, Daniel Guichard. Ah non, j'ai sauté la ligne. Faut bien que je saute quelque chose. Ah oui, c'est ça, j'espère qu'ils vont en parler au masque et la plume sur cette radio bobo de France Inter. Je peux la refaire la phrase, hein.
Écoutez, oh oui, un très
ça,
bon
j'espère
reportage.
Qu'il va parler au masque. La plume sur. Bon, bah, vas-y.
Il aurait écrit tout le sketch de Yann. C'était pas écrit.
Un très beau reportage. Oui, j'ai écouté ce très beau reportage. Et je rappelle que ces taxes permettent de financer des profs d'arabe qui vont islamiser nos écoles. Enfin, la météo, on retrouve Evelyne Delia. Alors, quelle sauce vont être mangés les contribuables français?
Oui, on attend un beau 8 degrés à Lille où, malgré tout, l'essence est à 1,51€ le litre.
Et j'imagine qu'il n'y a pas d'amélioration à prévoir pour demain.
Aucune... Moi, j'ai plus rien à dire.
C'est fini.
Aucune éclaircie à venir demain matin avec un maximal à Besançon de 1,49€ le litre et un minimal à Clermont-Ferrand de 1,47€ qui est beaucoup moins cher qu'un disque de Daniel Guichard.
Merci Evelyne, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le titre principal. Les Français sont très mécontents et comme ils aiment ça sur vrai. TF1, on leur donne tous les arguments pour l'être.
Chers amis de la France Inter, l'heure est venue du comique d'investigation radiophonique.
Et oui, Manuel Valls, vous savez, qui est parti à la conquête de la mairie de Barcelone, avant sans doute de partir à la conquête du club bouliste de région parisienne, avant de partir à la conquête de la direction de son EHPAD plus tard. Eh bien, à Ivry, il manque, et Guillaume Meurice est allé s'inquiéter de ce sujet.
Adieu, petit ange. Adios, Manuel, petit soldat de la défaite, petit prince de l'échec. Toi qui as tout tenté, y compris une greffe de la dignité que ton petit corps a rejetée, tu es parti vers d'autres horizons, d'autres dérouillés. Nous respectons ton destin, mais nous pleurons le nôtre. J'étais donc à Évry ce matin, dans son fief, s'il vous plaît. On pleure à Manuel Valls, je vous le rappelle. Petite commune de banlieue où Manu avait ses habitudes, calme, discret, jamais un bourrage d'urne plus haut que l'autre. Aujourd'hui, c'est toute une population qui pleure l'enfant du pays et j'ai rencontré des habitants dévastés.
De toute façon, moi, je le connais très bien.
Ah ouais?
Bah oui, je suis d'Évry, je connais très bien.
Et vous l'aimez bien ou pas?
Non.
Beaucoup de pudeur, évidemment, ce matin. Difficile d'assumer l'admiration qu'on vouait au grand homme, hein, qu'on appelait ici le White, le Blanco, le fils spirituel de Michel Rocard et de Judas. Beaucoup de gens qui ne peuvent cacher aujourd'hui ce sentiment d'abandon.
Ils nous abandonnent.
Est-ce que vous êtes un peu triste?
Bah non, je suis triste, moi. Oh là, je suis pas triste, moi, il fait sa vie. Comme on dit, chacun fait son lit comme il veut se coucher. Hein.
Bien sûr, beaucoup de déni également. Hein. On ne veut pas y croire. On préfère se réfugier derrière des proverbes qui feraient passer Bernard Pivot pour Maître Gims. Ça fait partie des phases du deuil. Pas Maître Gims, le déni, encore que. Mais j'ai voulu continuer à porter le micro dans la plaie. Qu'est-ce qu'on lui souhaite à Manu?
Qu'il soit heureux. Il est chez lui, il est heureux. Parmi sa famille, tant mieux. Hein.
Mais lui, il disait qu'Evry, c'était chez lui pour toi.
Bah, c'est bien dommage, il a abandonné sa famille. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est son choix.
Vous vous sentez trahi?
Non, quand même.
Qu'il est lourd de sens, ce no comment. Quand la douleur devient trop grande, on ne trouve plus les mots. Putain, c'est beau ce que je dis, on dirait du Cali. Tentons tout de même de positiver et de nous tourner vers l'avenir avec un autre habitant. Vous pensez qu'il a une chance à Barcelone, Manuel Valls, ou pas?
Rien à foutre, alors c'est pas ça qui va faire pleurer ma marmite. Hein.
Tais-toi, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Élève-toi au-dessus de la marmite, parce que ce monsieur, malgré cette angoisse qui le hante, soutient Manu contre ceux qui pensent qu'il n'a rien fait à Évry.
Oh si, quand même fait pas mal de choses bien. Si.
Ah, il a fait des choses bien quand même.
Ouais, mais
alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Si, il a bien... Ça me vient pas à l'idée tout de suite, mais enfin...
Tellement tout fait. C'est pour ça qu'il a pas foutu les pieds à l'Assemblée nationale depuis un bail. Il aime tellement Évry, Manu. C'est comme quand on aime une femme. Est-ce qu'on a envie d'aller voir ailleurs, hein? Enfin, non, c'est un mauvais exemple, Alex. André, bon, non, c'est un autre exemple. Non, c'est la merde. Manu, Évry, c'était sa ville, c'était sa vie.
Mais à Évry, lui, c'était sa vie. Il est arrivé ici jeune et puis il a grimpé jusqu'au Premier ministre. Et après, son entourage, il l'a chié dans la botte en parlant proprement. Alors, bon.
Vous pensez que c'est son entourage qui a chié dans ses bottes?
Ben oui, parce que c'est le Parti Socialiste qui l'ont dégradé.
Salaud de socialistes qui lui ont même fait signer un papier qui l'obligeait à soutenir Hamon. Même au temps béni de l'Algérie française, on n'osait pas une telle torture. Allez, on efface cet affront, on y croit, allez Manu.
Il va gagner aussi là-bas.
Comment vous pouvez savoir ça?
Parce que il a un talent vraiment extraordinaire pour rassembler les gens. Voilà, c'est ça qu'il a.
Manuel Valls, il a un talent pour rassembler les gens?
Oui, c'est ça.
Ah oui, contre lui essentiellement. C'est vrai qu'il a un vrai talent. Hein. Souvenez-vous des manifs contre la loi travail. Toutes ces personnes rassemblées grâce à Manu. C'est une sorte de Dalai Lama du Somme. Il aurait pu être belge d'ailleurs, Manu. Allez, on pense à lui, Manu et à son équipe.
Autour de lui, il y a des conseillers. Il est tombé, il est parti, voilà.
Mais vous n'êtes pas triste qu'il soit parti ?
Non, je ne suis pas triste, parce qu'il est brillant comme le soleil, hein, voilà. Je suis pas.
Il est brillant comme le soleil.
Oui,
brillant comme le soleil, Manu. Salut l'artiste qui brille au firmament. Un départ sans retour, hein, même en cas d'énième défaite, car nul doute que dans ce cas, il mettra en pratique sa phrase favorite. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration. Viva Esmaïa.
He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. Ghost from the river is watching. She won't let you get any close. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot out the head of the hound. Now take your fortune in, baby. Anymore won't fit your bed. Go as fast as your feet they will carry.
American Dream par J.S. Andara. Merci à Djoubaka pour sa programmation musicale.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Et on poursuit ce par Jupiter florilège de Noël avec la venue de Cédric Héroux qui a quitté sa vallée de la Roya pour venir dans notre open space, nous parler des réfugiés, de ceux qui l'accueillent depuis quelques années maintenant.
Et du film qui parle de ça.
Bienvenue chez nous Cédric Héroux. On vous voit dans un documentaire qui est consacré à votre action et à celle des habitants de la Roya. Documentaire qui s'appelle Libre, un film de Michel Toesca qui a déjà été couronné du prix mention spéciale Œil d'Or 2018, sélection officielle Festival de Cannes. Alors Michel Toesca, c'est l'un de vos amis.
Ouais, c'est un pote. C'est voilà. un pote de bar quoi.
Il y a un regard qui est pas complètement extérieur. Il vous a suivi pendant 3 ans, ça c'est la bonne contrepartie. Le film retrace l'histoire de votre combat, celui des habitants de la vallée de la Roya, à la frontière italienne. Alors, libre, c'est un mot qui guide votre action. Vous expliquez dans le film qu'en accueillant ces réfugiés, vous vous sentez libre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ce mot ? Et pourquoi il guide toute votre action ?
Je pense que la liberté ne peut pas être entravée par des menaces, par une corruption, par la menace. La liberté va bien plus loin que des barreaux de prison. C'est d'assumer ses pensées, d'assumer ses actions, de les réfléchir. Et pour moi, la liberté, c'est ça, quoi. C'est pas juste la notion de liberté de mouvement. C'est une notion de réflexion et d'agir par rapport à ces réflexions.
Ça veut dire que vous ne vous sentez pas libre si vous ne...
Si j'arrête ce que je fais juste par la menace, non, je ne serai plus libre, non, pas du tout.
Alors, les réfugiés dans ce film sont plutôt au second plan. C'est d'abord votre action et celle de tous les membres de l'association, des habitants de la Roya aussi qu'on voit. Est-ce que c'est parce que le réalisateur est en amouré devant votre action, ou est-ce qu'il est difficile ou presque impossible souvent de filmer
les réfugiés?
C'est que les
Noirs ne sont pas photogéniques en fait.
C'est un réalisateur raciste en fait.
Donc on a préféré. Non, c'est un film sur l'accueil en fait. C'est un film politique plus que militant. On n'est pas allé vers un problème, on n'est pas sensibilisé d'un problème, on nous a mis un problème dans une vallée qui est chez nous. Et on a réagi face à ce problème-là. Et donc du coup, on parle d'une action politique, citoyenne, populaire sur une localité.
C'est-à-dire qu'on voit bien comment vous réagissez, comment vous les accueillez. Ça va d'une infirmière bénévole qui vient soigner, aux cours de français qui sont donnés, etc. Mais comment a été accueillie la caméra? Si vous a suivi 3 ans, c'est qu'on s'est habitué à ça, mais les réfugiés, ils tournent, ils sont de passage aussi, ils sont souvent renvoyés puis ils reviennent. Ouais. Comment est acceptée la caméra et est-ce qu'il est facile ou pas de filmer ces gens?
Non, c'est pas
et
facile.
De les faire parler?
Non, c'est pas facile de les filmer, de les faire parler, mais ils ont confiance en caméra de Michel parce que c'était notre caméra. Voilà, c'est une caméra amie, c'était un outil, et c'était pas la caméra de TF1 ou France 2 ou BFM, c'est pas une caméra voyeuriste, c'est une caméra amie. Et c'est pas un film objectif, c'est un film subjectif, c'est un film engagé, c'est un film, c'est vraiment, pour Michel, son arme, c'est sa caméra, c'est son outil. C'est un peu comme la trousse de soins des infirmières, Michel, lui, il a sa caméra. Et donc, du coup, elle a été acceptée parce que c'est vraiment, ça a été vraiment une arme pour nous, en fait, de dénoncer. On a beaucoup dénoncé par la caméra, par le média, par l'écrit, et donc voilà.
On voit concrètement la vie au quotidien, la façon et les embûches auxquelles vous êtes confrontés, qui sont pas minces, les flics qui sont là en permanence, ouais. Les autorités, vos discussions.
Mais on voit beaucoup de choses. On voit en fait une organisation faite de briques et de brocs par des gens, des paysans, des infirmières, par Michel, et on travaille avec les moyens du bord. Et en face de nous, on a l'État qui bricole aussi.
Le film s'appelle Libre, de Michel Toesca. Et on va parler de l'Aquarius, donc en route vers Malte. À bord, une armée de 58 réfugiés qui menace l'Europe de surpopulation, donc on l'a dit. Dieu merci, ils seront répartis dans 4 pays, dont la France. Les équipes médicales les attendent à quai.
Allez, viens avec moi.
Comment ça, viens avec moi?
Là, tu vas sur le bateau pour les aider, les accompagner jusqu'aux tentes médicalisées.
Ah non, je peux pas.
Le courage, on a besoin de tout le monde ici.
Non. Je peux pas monter sur ce bateau.
Fais un effort une fois dans ta vie, merde.
Non, mais j'aurais adoré les aider, mais j'ai pas envie de choper une saloperie.
Superchondriaque de Danny Boone avec lui-même et Cadmerade. Donc le navire humanitaire a perdu son pavillon. C'est donc un navire pirate, on peut dire. Est-ce que vous voyez un sort commun avec le vôtre finalement? Est-ce que vous n'êtes pas aussi une sorte considéré comme un pirate?
Ouais, je crois que c'est la question est quand même plus difficile pour l'Aquarius que pour moi quand même. Mm-hmm. C'est quand même plus compliqué pour eux. Après, on est un peu tous des pirates, hein, je crois qu'on n'a pas trop le choix, quoi.
Vous voulez dire c'est plus compliqué dans la démarche qu'elle a l'heure ou légalement?
Ils sont confrontés à la mort en fait, donc directement. Il y a beaucoup de gens qui meurent, hein. Une personne sur 17 là en ce moment qui tente de passer à la Méditerranée qui meurt, quoi. Donc ça va être une 17 sur 17 dans pas longtemps parce qu'il n'y aura plus aucun bateau de secours dans la Méditerranée et que l'Europe, l'Italie, la France fait tout en fait pour en virer ces bateaux, quoi, et que les gens meurent en Méditerranée. C'est quand même, on peut appeler ça un crime contre l'humanité, hein. Je pense que dans pas longtemps on risque d'en parler, et ce qui se passe c'est grave, quoi.
Ils sont 58 à bord et seront répartis dans 4 pays, et 58.
Il y a eu un mini sommet européen pour 58 personnes. Juste pour vous dire, à la maison, on est arrivé jusqu'à 250. Ouais. En tout, 2500 personnes qui ont été gérées avec des tentes, des caravanes, du bon sens paysan, avec pas grand-chose, quoi. Mmh. Et qu'on voit qu'ils font des mini-sommets européens pour 58 personnes, mais c'est du foutage de gueule, en fait. C'est vraiment du foutage de gueule.
Vous qui les avez près de vous, avec qui vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui se passe là-bas, le pourquoi d'un moment ils sont partis, parce qu'il y a une espèce d'angoisse des gens peut-être de droite qu'ils veulent venir chez nous pour nous prendre leur travail. Vous qui les voyez, est-ce qu'ils vous expliquent peut-être que en fait c'est juste invivable là-bas?
Après, quand les personnes viennent à la maison, nous justement c'est pour ça qu'on a un accueil peut-être différent, alternatif, c'est qu'on leur pose pas de questions en fait, c'est qu'on les considère comme personnes. Et quand moi j'ai des gens qui viennent à la maison, des invités, je leur demande pas s'ils sont fait violer quand ils étaient gamins ou autre chose.
Non, mais ils pourraient avoir envie de s'ouvrir.
Ouais, mais voilà, sinon sinon il y a des personnes qui se confient, mais sinon nous chez nous on a des Érythréens, des Soudanais du Sud, Darfour, donc c'est la dictature, c'est la guerre, et le pire c'est la Libye, quoi. Vous savez, les gens avec qui l'Europe finance en ce moment, qui on travaille, qu'on appelle des gardes-côtes, mais en fait qui sont des passeurs, enfin c'est un peu, et là-bas c'est des, ils se font torturer, ils se font, et ce que je peux voir c'est en soignant les blessures qui sont pas encore fermées, des tortures, et c'est assez glauque, c'est assez et c'est vrai d'avoir ça chez soi, là, sur la Côte d'Azur, moi qui étais protégé en étant gamin par mes parents, qui une petite vie idéale, et de se retrouver, que tout ça devienne réalité, quoi, que la torture devienne réalité, que la guerre devienne réalité, et c'est compliqué à vivre, c'est sûr.
Et quand vous dites on leur pose pas de questions, c'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles dans le film Libre, il y a assez peu de témoignages, il y en a notamment un qui est nigérian et qui raconte Boko Haram, mais ils sont assez peu. Et ça, c'est un moment très très fort du film de Michel Toesca sur l'action de Cédric Herrou et les habitants de la vallée de la Roya qui travaillent avec vous. Cédric Herrou, je vous propose de laisser la parole à celui qui, depuis 5 ans déjà, prend, lui, le risque de faire passer des xénophobes en France en les accueillant chez lui. Ouais. C'est Pablo Mira.
Ouais, Charline, je me souviens, ça a commencé avec une petite fille raciste en 2013. Aujourd'hui, c'est tout le staff de Matteo Salvini qui dort dans mon jardin.
Oui, donc Pablo, vous allez nous parler de ces personnes qui viennent en aide aux migrants, que ce soit notre invité Cédric Herrou ou l'équipage de l'Aquarius.
Tout à fait, Charline. Et aujourd'hui, je vais être direct, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté pour deux raisons. La première, c'est la présence de notre invité Cédric Herrou dans ce studio. La deuxième, c'est l'absence de coiffeur dans ce studio alors que Cédric Herrou est ici même. Un catogan queue de cheval en 2018, c'est non. Alors moi, je vous le dis d'entrée, Cédric, ça ne m'impressionne pas du tout ce que vous faites. Déjà, idéologiquement, je ne suis pas fan, je vous le dis directement. Et puis d'accord, vous accueillez chaque année des dizaines, des centaines d'immigrés clandestins dans votre jardin. D'accord, mais c'est rien par rapport, par exemple, à Éric Zemmour qui, lui, en accueille chaque soir plusieurs millions dans ses cauchemars. Alors, bien sûr, vous avez des convictions, Cédric, des convictions même très fortes. Pour info, Alex, des convictions, c'est ce qu'on a quand on refuse d'aller bosser chez Ardisson. Et ces convictions, vous voyez, vous poussent depuis 6 ans, non un peu moins, pardon, je corrige, depuis 2-3 ans, à mener des actions qui sont évidemment louables, elles le sont louables ces actions, Cédric, mais je veux que vous compreniez une chose, moi je ne veux pas non plus jeter la pierre à tous ceux à qui l'immigration fait peur. Moi, à ces gens-là, je veux plutôt leur dire, tenez, voici une pierre, jetez-la sur Cédric Herrou. Car c'est triste, mais je le répète depuis des années, on ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la mâchoire de Didier Deschamps. Et pourtant, aujourd'hui, en face, on assiste à une vague migratoire massive, massive. J'ai même envie de dire, on est en face d'une vague migratoire Gérard Larchive. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est René, hein, qu'on a au téléphone, expert en flux migratoire, attaché à l'université du Bar-Tabac, le Comptoir, à l'angle de la gare du Nord à Paris. Bonjour René.
Ouais, salut Pablo.
René, merci déjà de nous accorder un peu de votre ébriété. Ouais. René, vous qui avez étudié de près la question de l'immigration, ma question elle est simple aujourd'hui pour vous. Pouvez-vous nous dire combien il y a à l'heure actuelle de clandestins sur le territoire français, s'il vous plaît?
Je sais pas, mais un sacré paquet.
Merci René, voilà, c'est donc confirmé, Charline, il y en a un sacré paquet, des chiffres qui font froid dans le dos. Mais ce n'est pas tout, il y a pire en matière de chiffres qui font peur. Chaque année, écoutez bien, chaque année, 200 000 personnes de nationalité étrangère entrent sur le territoire français, voire même 250 000 selon certaines estimations. Alors bien sûr, vous pourriez me contredire en précisant que sur ces 200-250 000, il y en a déjà un tiers qui sont des étudiants en Erasmus. Ensuite, il y a les expatriés qui travaillent ici et puis les conjoints et les enfants de Français qui étaient à l'étranger et qui reviennent ici. Vous pourriez montrer de cette façon que j'ai tort. Mais vous savez pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que je viens de le faire à votre place, Charline. Non, si vous voulez mon avis, l'origine de cette crise dont on subit les conséquences aujourd'hui, c'est l'absence de concertation à l'échelle européenne, tout simplement. Franchement, voir les pays européens incapables de régler cette catastrophe et se battre chaque année pour ne pas avoir à accueillir de gens désespérés qui viennent d'un peu partout, ça me rappelle les heures les plus sombres de l'Eurovision, je vous le dis. Alors au final, je vais vous dire une chose, je respecte la décision du gouvernement d'avoir dit non à l'Aquarius, parce que il en faut du courage pour dire à quelqu'un qui est dans la détresse, désolé, mais tu ne peux pas venir chez moi, il faut rentrer maintenant. Et ça, les dates d'Alex Vizorek sont bien placés pour le savoir. Pour conclure, Charline, laissons les migrants se débrouiller tout seuls. Je vous le dis aussi droit dans les yeux, Cédric. La France a déjà trop de problèmes à régler pour se permettre de venir en aide aux autres. Des problèmes comme le fait de résoudre le problème du chômage ou de soigner son obsession à propos de l'immigration. Et ça, il y a du pain sur la planche. Allez, salut.
Merci Pablo Mira. Vous êtes sur France Inter par Jupiter. Cédric Héroux est notre invité. Et on va aborder ce troisième sujet qui est destiné à se détendre. Comment entamer la conversation avec un inconnu sans parler de la météo et sans dire sinon vous faites quoi dans la vie? Très difficile, nous sommes là pour vous aider. Tout en sachant que le deuxième contact n'est pas plus facile. Écoutez.
Hi Fritz, it's Lola. We met in front of Le Baron last week, so you told me to call you today because you come back from Berlin, so I call you, I leave you a message, so you can call me this afternoon, or maybe I'll call you back, yes, anyway I'll call you back, but you can also call me, thank you very much, bye bye, Fritz.
Eulalie Juster dans La vie au ranch, un film de Sophie Le Tourneur. C'est un article paru sur Slate.fr qui s'intitule « De l'art d'entamer une conversation avec une personne inconnue ». Cédric Héroux, vous avez appris très tôt à cohabiter avec des inconnus de votre âge. Si je ne me trompe, vos parents accueillaient des enfants délaissés. Vous partagez votre temps, vos jouets, vos repas, etc. Donc est-ce que aborder l'autre et l'inconnu, pour vous, c'est quelque chose d'inné? Et, les premiers mots que
j'ai appris grâce à la culture de la Côte d'Azur. Maintenant, je leur demande les papiers. Et puis, s'ils me disent non, je me dis, tiens, il y a du blé à se faire. Donc, du coup, je les mets dans ma bagnole. Et
c'est comme ça que ça va.
Bah, oui. Non, c'est pour ça que je suis très ouvert à l'autre, en fait.
Il y en a qui vous ont volé un cendrier, des choses comme ça.
Hein? Ou bien pire que ça.
Il faut le dire aussi. Des oliviers entiers. Ils se baladent dans la France avec des oliviers entiers.
Mais le pire, vous savez, le pire, quand ils marchent 3 jours, 4 jours dans la montagne, le pire, c'est qu'ils ont faim après.
Mais non.
Et ils vous bouffent toutes les denrées. Moi, j'ai fait un potager, ils m'ont bouffé toutes les salades et les tomates, les salauds, quoi.
Dingue.
Pas possible. C'est aussi important. Et c'est pour ça que je veux qu'ils partent de la Roya, quoi. Ils nous emmerdent, quoi.
Quels sont les premiers mots qui sont échangés entre, par exemple, l'infirmière bénévole ou vous-même ou les habitants qui font l'association des habitants?
Moi, c'est bienvenu, d'abord, ouais. Parce que j'ai la responsabilité de faire de l'accueil en France. Donc, c'est important de représenter le peuple français.
Et c'est en anglais? Bienvenue. C'est welcome?
Moi, je reparle toujours en français. Et ouais. Quand il y a vraiment... C'est parce que je parle pas anglais bien. Mais je trouve que c'est important de leur parler en français pour que ça rentre dans la tête et qu'ils puissent apprendre par la suite.
Bienvenue donc.
Ouais, c'est bienvenu. C'est bienvenu et qu'est-ce que tu veux manger si tu veux un thé? Voilà.
C'est un peu ça. Ouais. Et on entend d'ailleurs qu'en anglais, vous n'êtes pas fortiche hein, dans le film libre.
Arrêtez, s'il vous plaît.
Michel Toesca. Cédric Héroux avec nous. Mais comme en français, vous êtes doué, on va vous proposer un petit sketch si vous êtes d'accord.
Non, mais si je suis d'accord, je peux refuser. Donc.
Non, vous ne pouvez pas parce que c'est un rôle que vous rêvez d'endosser depuis si longtemps.
Ah ouais, évidemment.
Le rôle d'Éric Ciotti.
Évidemment.
Faites-vous plaisir, Cédric.
Voici une tondeuse.
Et une émission sur France 3, Côte d'Azur. Éric Ciotti est là. Christian Estrosi, en la personne de Guillaume Meurice, qui aimait ce rôle aussi. Accompagné de sa dame, que ce sera
Madame
Charline.
Oui.
Et je vais présenter ce débat parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord, ces deux-là. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand débat entre Éric Ciotti et Christian Estrosi. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qui vous différencie.
C'est simple. Monsieur Estrosi est devenu un anarcho-gauchiste.
Non, je me suis simplement aperçu que je n'étais pas dans la bonne famille politique. J'ai un cœur.
Oh, c'est beau.
Oui, excusez ma compagne, elle est émotive. Et je souhaite que ma politique soit conforme à mes convictions. Mamour, j'ai été bon là? C'était bien de gauche?
Oui, mais enfin, t'as parlé, mais sans rien dire là, mais bon.
Bah, c'est comme ça qu'ils font hein, En Marche, non?
Monsieur Estrosi, oui. En quoi vous vous sentez donc de gauche?
Je suis pour une plus grande solidarité entre les hommes et les femmes de ma ville.
Oh, ça c'est de gauche, la solidarité.
Monsieur Estrosi, vous êtes devenu un punk à chien. Dans 3 semaines, il jouera du diabolo sur la promenade des Anglais, salaud.
Attendez, monsieur Estrosi, on y reviendra. Monsieur Estrosi, oui. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Oh ben alors, par exemple, la semaine dernière, j'ai donné 50 centimes à un SDF.
Et voilà. Maintenant, ils prennent la cistana. Bientôt, Nice accueillera toute la misère du monde, je vous le dis.
Oui, oui, enfin, monsieur Strozzi, vous dites que vous êtes devenu de gauche, mais oui, vous avez quand même empêché la diffusion dans votre ville du film Libre de Cédric Herrou.
De Cédric Herrou ?
C'est une saloperie.
Oui, c'est un gaucho. On ne pouvait pas diffuser son film car on était en plein festival Jean Roucas. Dis que tu l'aimes beaucoup, puis ça passera.
Oui, alors j'aime beaucoup Cédric Herrou. C'est un artiste incroyable.
Cédric Herrou, une fripouille. Moi, maire de Nice, il restera interdit de territoire.
Voilà, monsieur Sautier, on y vient. Qu'est-ce qui vous dérange chez monsieur Estrosi ?
C'est devenu un islamo-gauchiste depuis qu'il s'est mis en couple avec cette Fatima.
Non, je m'appelle Laura, moi, hein, Laura.
Oui, bien, ne vous appelez pas Corinne.
Bah non, parce que je m'appelle Laura. Donc...
Ben voilà, c'est ce que je disais. Bientôt, il va accueillir l'Aquarius à Nice.
Alors, pour les migrants, c'est pas si simple que ça. Vous savez, Nice ne peut recevoir...
De gauche, Christian, de gauche, de gauche.
Ah non, mais là, je suis au maximum.
Non, mais alors, concrètement, aujourd'hui, Nice est-elle une ville sociale ?
Bien sûr, Nice est très proche d'une population en souffrance.
Et ben qui ?
Les vieux.
Non mais arrêtez d'insulter l'électorat de monsieur Ciotti.
Vous croyez que c'est facile pour les retraités, Jupiter qui les saigne.
Oh mon cri-cri, ma mamie va t'aimer encore plus.
Alors si on doit accueillir des migrants...
Mais je me tue à vous le dire. Surtout qu'arriva un moment où les migrants seront des retraités.
Bah, et on les mettra où?
Je vois qu'une solution, chez Cédric Herrou.
Alex, ne nous quittons pas comme ça.
Ne nous quittons pas comme ça.
The cherry on the cake, la
quittons-nous
cerise.
Quittons-nous avec Frédéric Fromet.
Eh bien, cette semaine, nous avons donc appris que les oiseaux disparaissaient des campagnes françaises à une vitesse vertigineuse. Quelle indignité! Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les corneilles. Bye bye les étourneaux, les mésanges c'est pareil. Ça fait pas rire les oiseaux, les perdrix, les tourterelles. On est tellement crado qu'on fait de la terre une poubelle. Ça fait pas rire les oiseaux. Oh, 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 pas rire les oiseaux. Oh, oh, une chanson d'adieu, c'est comme un traitement au nitrate. Allez, vas-y, va un lieu que je te pulvérise, que je te sulfate. Une chanson d'adieu, c'est le poison dans la campagne. Le comble serait que les oiseaux s'exilent à Paname. Si ta vie est devenue morbide, pleine de pesticides, de néonicotinoïdes. Il y a toujours une mélodie pour te dire que c'est cuit-cuit. Allez, bats un peu des ailes, essaye un peu plus fort. C'est beau une ritournelle qu'on reprend pour ta mort. Ça fait pas rire les oiseaux, ça les fait pas rire du tout. Ça nique les corbeaux, ça flingue les petits piou-piou. Ça fait pas rire les oiseaux, y'en a pas un qui s'esclaffe. Déjà qu'ils avaient le cœur gros à la mort d'Edith Piaf. Ça fait pas rire les oiseaux. Oh, 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 pas rire les oiseaux. Oh, oh, au moins nous n'aurons plus jamais un appétit de moineau. Nous ne bavarderons plus comme la pie qui parlait trop. Au moins on ne pourra plus nous prendre pour des pigeons. Mais nous ne serons plus jamais gais comme des pinsons. Si tu n'as plus un insecte à te mettre dans le bec, si jamais l'homme te débecte, si petit à petit on te défait ton nid. Allez bouge un peu tes plumes, fais tes dernières vocalises avant que l'on te fume pour un caca sur le pare-brise. Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les abeilles. On s'en bat le jabot tant que brille le soleil. Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les alouettes. On vole tellement pas haut qu'on saccage notre planète. Ça fait mourir les oiseaux. Oh, 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 mourir les oiseaux. Oh, 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 mourir les oiseaux.
On va vous laisser digérer tranquille maintenant.
Oui, il est temps.
Il est temps. On va se retrouver demain, bien sûr, avec Anna Karina, l'égérie de la Nouvelle Vague.
Oh, la
et avec le jeune écrivain David Lopez qui avait remporté le prix du livre Inter.
Le gars est brillant.
Eh oui, allez, à demain.